Bonjour, Annick Delefosse au micro de Radio FM+. En soutien à la culture, l'un des secteurs les plus impactés par cette crise qui traverse le monde, à tous nos artistes, techniciens, techniciennes, intermittents du spectacle, et en hommage au printemps des comédiens, je vous invite à travers la magie de la radio à revivre les éditions de 2014 à 2019 de ce festival de théâtre unique en son genre. Vous y entendrez de nombreuses interviews d'artistes, des extraits de spectacles et nous replongerons ainsi dans ces merveilleux moments que nous avons vécus en attendant avec impatience l'édition 2021. En direct du Domaine d'eau, eh bien aujourd'hui je reçois Mona Dadou et Manon Benchek pour l'After Shakespeare, un marathon de 13 heures au Théâtre d'eau ce samedi 18. Ensuite, j'aurai Marie Clausade, photographe du festival depuis plus de 2 décennies. Elle nous présentera son parcours artistique ainsi que son exposition à voir dans la Pinède. Et enfin, David Léon, auteur, nous présentera son texte « La nuit, la chair » que vous pourrez entendre en intégralité ce vendredi à 18h30, interprété par Stéphanie Marc, et ce sera à la Pinède en entrée libre. Manon, Mona, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes toutes deux étudiantes à l'Université Paul Valéry. Mmh. Vous faites partie de la promotion sortante de la licence théâtre et spectacle vivant. Mmh. Et c'est une sacrée aventure que vous vivez cette année.
Ah ben ça, oui.
Oui, on confirme.
Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette expérience, moi qui me semble vraiment unique à l'Université Paul Valéry, parce que pour avoir moi-même fait une licence en art du spectacle, section théâtre, c'est vrai, bon, voilà, on a beaucoup de théories, on a des ateliers pratiques, mais là, c'est vraiment, vous êtes sur le terrain. Et vous faites tout. Et c'est une façon, quelque part, de vous mettre aussi en situation professionnelle.
C'est ça. Alors, c'est super intéressant parce que, comme vous dites, on fait vraiment tout. On pourrait penser qu'on fait que du jeu, qu'on fait que les comédiens. Mais non, parce qu'il y en a qui ont appris la technique en un an, qu'on fait de la dramaturgie, de la scénographie. Enfin, voilà. Et ça va de la conception à vraiment la création du matériel, quoi. Ouais.
Alors, j'avais invité Laurent Berger en avril pour la nuit Shakespeare, les 24 heures. Au théâtre La Vignette, soit alors l'œuvre intégrale de cet auteur, 38 pièces en 30 minutes. Pour ce spécial Printemps des comédiens, vous récidivez...
Pardon ? After Shakespeare, du coup.
Voilà, l'After Shakespeare. Vous récidivez sous une autre forme, 13 heures, 50 étudiants. C'est Est-ce ça. Que vous pouvez nous résumer ? Alors, on va reprendre au niveau un peu l'historique. Comment déjà est née cette initiative des 24 heures Shakespeare ? Et ensuite, comment, lorsque vous avez appris que vous alliez jouer dans le cadre du Printemps des comédiens, comment avez-vous raccourci en 13 heures ?
L'initiative est née de Laurent Berger, en fait, au début de l'année. Donc, on savait qu'on allait jouer Shakespeare, mais on savait pas quelle pièce on allait jouer. Et quand il nous a dit qu'on allait faire 24 heures Shakespeare, on croyait que c'était une blague au début.
C'est un blagueur, ouais. Laurent Berger. Ouais.
On a eu des doutes. Non, il y a eu des réactions très différentes. Certains étaient très enthousiastes, comme moi, et d'autres avaient peur, d'autres pensaient que c'était n'importe quoi, etc. Et au final, ça s'est super bien passé. Et du coup, la réduction à 13 heures, on a fait des
coupes principalement, en fait. Parce
on a fait des coupes dans les pièces qu'on avait déjà, les propositions qu'on avait déjà, et on a repris des pièces en fait qu'on avait déléguées à des compagnies professionnelles, à des autres écoles comme le Cours Florent, etc. Et à des L2 et des L1. Et du coup, on a fait des propositions plus courtes, de 10 minutes ou un quart d'heure.
Oui, mais alors là, au niveau dramaturgique, comment... Alors déjà, des pièces de Shakespeare, bon, on sait que c'est toujours sur la longueur. Déjà, une demi-heure, c'était quand même un sacré challenge. Là, elles vont faire quelle durée ? Parce que les 38 pièces, ils sont sur ces 13 oui. heures. Hein. Donc, elles ont une moyenne, chaque pièce a une moyenne de combien de temps ? Combien de minutes ?
20
minutes.
Moyenne, alors, les pièces qu'on avait déjà jouées aux 24, mais qui seront du coup, qui auront pris un coup de neuf, dont on a refait la façade, dureront environ 20 à 25 minutes, on va dire. Mmh. Et les autres, on va dire que la plus courte fera 5 minutes.
5 minutes, d'accord. Voilà. Alors, bon, toutes les deux, quel rôle avez-vous chacune dans cette histoire ?
Ouf. Ben, on a chacun des rôles très différents, en fait. C'est-à-dire que on cumule plusieurs chapeaux. Au bout d'un moment, ça fait une espèce de petite pyramide sur la tête. Mais si on tient l'équilibre, c'est bon. Mona, elle est dramaturge. Ouais. Elle a fait un énorme travail sur Henri VI, qui est en trois volets. Je sais pas si les gens se souviennent, mais Thomas Joly a fait un Henri VI qui durait 18 heures. Donc voilà, elle a fait un super travail là-dessus, avec des propositions complètement ouf. Et elle est comédienne aussi sur Henri IV. Et elle fait partie du groupe production, qui est le groupe de production, le groupe Orga, comme on l'appelle chez nous, en fait, qui avons... gérer toute l'organisation de tout ça.
D'accord. Et bien, Mona, vous allez présenter...
Voilà, j'ai présenté Manon, du coup.
Et du coup, Manon, Manon est comédienne, ainsi que productrice. Oula. T'es en production. Et donc, t'es comédienne dans Troïlus et Cressida, dans Le Deux Nobles Cousins, donc dans plusieurs pièces. Ouais. Et t'as fait de la dramaturgie aussi.
J'ai fait de la dramaturgie sur Troïlus et Cressida, puis après je fais de la comédie musicale sur Cymbeline aussi. Je fais un espèce de zombie dans Richard III. Qu'est-ce que je fais ? Enfin voilà, on a tous des rôles. C'est une grande mosaïque, donc on a tous des carreaux un peu éclatés qu'on place partout.
D'accord. Alors on va écouter un premier extrait. C'est un extrait de Timon. On écoute et vous nous présenterez après cet extrait, d'accord ?
Ça
d'accord.
marche.
Appelle ces créatures qui vivent nues sous la haine du ciel. Misérables. Dégarnis, sans abri, rancœur, en haleine, la mort, maudit.
Appelle ces créatures
on
qui
ferait n'importe quoi pour de l'or,
du ciel.
Crétin,
misérable,
trop de bien est un péché,
sans
piège
abri,
immense,
rancœur,
amour, témoin, promesse
folle,
dette, sans rancœur est indissolublement lié à sa nature,
trop de bien est un
haïssant,
en haleine,
ami vorace,
amour, mort,
ce chien,
maudit,
mélancolie. Dévoué.
Promesse folle,
maladie d'amis,
appelle ces créatures
misérable
qui vivent nues
sous la haine du ciel,
sa nature,
misérable,
haïssant,
en allée garnie,
appelle ces créatures qui vivent nues
sous la haine du ciel,
on ferait n'importe quoi pour de l'or,
maladie garnie,
crétin,
maudit,
sans abri,
trop de bien,
on ferait n'importe quoi pour de l'or,
piège immense, amour,
trop de bien,
est un péché,
promesse folle,
piège immense,
amour,
sans rancœur,
est indissolublement
lié à sa nature.
Appelle ces créatures
sans rancœur, sont
indissolublement
liées
à
ce
chien, dégarni,
mélancolie,
sans abri,
ami vorace,
maladie d'amis,
dégarni,
misérable,
sans abri,
sans rancœur,
maladie d'amis,
indissolublement
lié
à sa nature.
Haïssant, ami vorace, ce chien, mélancolie puérile, maladie d'amis, misérable.
Timon, c'est sur les réseaux FM+, et ce sera à découvrir demain samedi au Théâtre d'Eau, donc dans le cadre de l'After Shakespeare, 13h de marathon, moi j'adore. Donc, bon, il faut quand même rappeler que c'est pour le 400e anniversaire de la mort de ce maître.
Ouais. Voilà, hein, c'est ça.
Maintenant, vous savez tout sur Shakespeare, vous savez tout sur ses œuvres.
Alors tout, je pense que jamais personne au monde ne saura tout sur Shakespeare, même pas lui-même d'ailleurs. Mais on sait beaucoup de choses, je pense qu'on est des jeunes gens qui connaissent au moins tous les titres de pièces, qui vont traverser beaucoup de choses avec lui, même s'il est parti.
Mais on est tous,
enfin
tous les dramaturges sont assez calés sur les pièces sur lesquelles ils ont travaillé.
Ah oui,
coup,
ça c'est sûr.
On se complète vachement.
Ouais.
Alors au niveau des formes, c'est très pluridisciplinaire. Hein.
Oui.
Il y aura de tout. Vous voulez nous dire un peu ?
Alors, il y aura du théâtre, mais il y aura aussi de la musique, des chants d'opéra. Il y a du cirque. Il y a de la danse, il y a de la performance aussi. Et après, les formes de théâtre sont très diverses. On a du théâtre du plus traditionnel au plus...
contemporain.
Oui, contemporain, même si tout est contemporain d'une certaine manière. Mais oui. Enfin, ça passe vraiment de tout à tout. On joue en extérieur aussi. On va vous faire un « Comme il vous plaira » en extérieur. Enfin,
yes.
Voilà, ça, on fait tout.
On fait tout. Eh bien oui, on fait tout. Je rappelle que ce projet a été en effet entièrement porté par votre promotion,
oui.
Que ce soit donc au niveau de la production, de la création, de la technique, avec bon, quand même bien sûr un accompagnement de vos enseignants, chercheurs et des artistes.
Bien sûr.
Mais bon, voilà, chapeau. Alors au final, à travers l'œuvre de Shakespeare, que voulez-vous raconter aux spectateurs ?
Je pense que la plus belle chose qu'on raconte et la chose qui touche le plus les gens en regardant, c'est de voir comment des jeunes gens comme nous, complètement inexpérimentés face aux matériaux shakespeariens et au théâtre aussi, parce qu'on n'a que 20 ans, même si on a parfois un peu d'expérience,
arrive à faire quelque chose de très très beau avec ça, parce que au départ, enfin, Mona racontait tout à l'heure le jour où Monsieur Berger nous a dit on va monter tout Shakespeare. Ah, d'accord, c'est quand même un peu vieux. Eh ben non, parce qu'en fait on a essayé des choses très diverses et à chaque fois le matériau, boum, il montait et il se collait exactement à ce qu'on voulait dire.
On s'est rendu compte que c'était très moderne en fait Shakespeare.
Donc on raconte des choses très très diverses quoi, de la place de la femme dans la guerre entre Lux et Cressida. Il y a un match de foot dans une des pièces.
On fait de la télé-réalité quand même et des matchs de foot, donc voilà. C'est très actuel, hein.
Très shakespearien, parce que il contenait déjà de la télé-réalité. C'est dingue.
C'est dingue. C'est dingue. Et alors nous allons terminer en musique avec I'm Shipping, ai-je bien prononcé ?
Oui, I'm Shipping, oui. Je vais le faire pire, donc. Oui.
que nous entendrons dans Richard III, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Alors, pourquoi cet extrait musical en particulier pour Richard III ?
Alors, I'm Shipping, c'est un petit côté celtique, un peu agressivo-glauque, parce qu'en fait, Richard III, c'est l'histoire d'un homme monstrueux qui va tuer, tout détruire autour de lui pour avoir le trône. C'est un méchant. Et en fait, il y a un moment où les gens ils vont se relever de leur tombe pour aller le manger.
Et je suis détrônée par un breton, du coup.
Voilà, un vrai breton.
Mona Daoud, Manon Benchaik, un grand, grand merci.
Merci.
Et donc, on se rejoint demain à 20h au Théâtre d'Eau, l'After Shakespeare, 13 heures de spectacle.
Vous vous en relèverez pas.
Et oui, Scénorama spécial Printemps des comédiens, c'est en direct du Domaine d'Eau, à écouter sur le réseau FM+. Donc ce vendredi à 10h30, demain à 12h30 et bientôt, évidemment, pardon, écoutable en podcast sur fmplus.org. Alors, bonjour Marie Clausade.
Bonjour.
Alors vous êtes là, L-A majuscule, un photographe du Printemps des comédiens depuis plus de 20 ans, mais pas que. En tant que photographe indépendante, vous partagez votre activité entre vos projets personnels et des travaux de commande, essentiellement pour le spectacle vivant, avec une actualité particulièrement chargée depuis un an, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ? Tout à fait.
Alors, je pense notamment à votre superbe expo vue à la Bulle Bleue, puis à la Casa Blondel, Je t'embrasse, Carcasse. Vous voulez nous présenter ce travail ?
Mm-hmm. Non, maintenant, je l'appelle Carcasse, hein, parce que ça fait plus d'un an que je travaille dessus, alors... voilà, donc Je t'embrasse Carcasse, c'est une commande en fait de la Bulle Bleue. Donc il m'a demandé, la direction de la Bulle Bleue m'a demandé de venir porter un regard artistique sur le travail donc de la compagnie, puisque la Bulle Bleue est une compagnie de comédiens professionnels en situation de handicap. Donc l'idée était de venir clôturer un petit peu les trois ans de l'artiste associé Marion Coutarel, qui était donc metteuse en scène pendant trois ans là-bas. Et voilà, donc le projet, c'était d'affaire ensuite une exposition, un catalogue, etc. Voilà, donc totale carte blanche, ce qui pour moi était un cadeau. Carrément un cadeau, puisque je pouvais du coup associer un travail très personnel avec le théâtre, ce qui est assez rare en fait dans ma profession, puisque au Printemps des comédiens et pour les compagnies, je travaille essentiellement en tant que photographe de plateau. Donc là, j'allais enfin pouvoir en fait associer ces deux passions. Et donc voilà, je suis restée en résidence là-bas pendant un an. Bon, Pas au quotidien, hein, mais en tout cas, je les ai suivis pendant un an et j'ai proposé donc un travail autour de la singularité de la multiplicité des langages que peut représenter une compagnie telle que celle-là.
L'exposition s'est réitérée, on va dire, à la Casa Bondel.
Tout à fait.
Un superbe appartement haussmannien rue Saint-Guilhem, ouais. Voilà, qui organise voilà,
des expositions, des ateliers, etc.
L'exposition va continuer à tourner ou pour l'instant pas de date?
Alors, elle devait la partir à Saint-Alban, mais bon, ça a été reporté les délais étaient trop courts. Donc elle sera à Saint-Alban sur l'Imagnol l'année prochaine. Et puis là, je vais passer à un autre projet, en fait. Donc voilà. Donc,
Alors on peut savoir ce que c'est que cet autre projet?
Ben en fait, je vais continuer à travailler autour. Enfin, mon sujet, c'est quand même le sujet humain. Hein, donc je reste à cet endroit-là. Et j'ai envie de travailler... J'ai peut-être pas trop envie de le dévoiler maintenant, mais en tout cas autour de la mémoire, autour de ce qui peut être une mémoire archétypale qu'on est peut-être en train d'oublier un petit peu. Et puis donc voilà, qu'est-ce que c'est que ces endroits obscurs de notre cerveau, de notre inconscient aussi. Mais c'est toujours, finalement, je travaille toujours le même sujet. Hein, je le prends par là ou par là, mais voilà. Donc peut-être que ça va s'exprimer autour de la tête, quelque chose autour de la testa.
D'accord. Alors, à l'occasion des 30 ans du Printemps des comédiens, Marie, c'est tout naturellement que la direction du festival vous a missionné pour cette exposition illustrant toutes ces années de spectacles, d'artistes merveilleux que nous avons pu rencontrer sur ce domaine. Hein. Alors, quelques mots sur Ex Loco.
Oui, Ex Loco. Ex Loco, c'est une association qui a été créée peut-être maintenant, il doit y avoir deux ans. Et puis, Ex Loco, ça veut dire à partir de. Donc, l'idée, c'est un peu d'aller créer de l'événement artistique en dehors des lieux dédiés. Donc, voilà, ça peut être dans le hangar de la Bulle Bleue, qui était un hangar en transition, donc quasi désaffecté au moment où ils me l'ont laissé. Et de l'investir pour faire l'exposition. Là, ça peut être à la Casa Bondel, puisque justement, c'est a priori pas un lieu d'exposition, mais un lieu multiple. Ça peut être ici, par exemple, sur le mur de la Pinède du Printemps des comédiens. Voilà, donc l'idée, c'est un peu d'aller sortir l'art des endroits dédiés, et pour qu'ils soient accessibles à tous, mais plutôt pour qu'ils viennent un peu à la rencontre de tous, que les gens... tout un chacun puisse tomber dessus, j'allais dire.
Oui, et c'est vrai qu'ici, ben, nous tombons vraiment dessus. Hier, je vous ai interviewé face à cette belle fresque photographique, donc située sous la Pinède, contre le mur, soit 33 mètres. On écoute.
C'est long, hein ? C'est long, ça fait 30 mètres. Voilà. Donc l'idée, c'était de... Enfin, que ce soit à peu près impossible d'embrasser toutes les images, d'embrasser avec les yeux, hein, d'un seul coup. Donc du coup, elles sont non plus pas très grandes, parce que même en reculant, on voit cette grande frise de 30 mètres, mais on est quand même obligé de s'approcher si on veut venir voir les images. Donc du coup, il y a vraiment cette impossibilité de tout embrasser d'un coup. Voilà, donc ça, pour moi, c'était important. Ensuite, il n'y a pas de chronologie dans les photographies. Donc ce qui m'intéressait, c'était de les faire dialoguer les unes avec les autres, de les entrelacer, de faire jouer les couleurs, la lumière, de faire dialoguer les personnages entre eux, de faire une mise en scène en fait avec ces images sur une linéarité qui oblige aux allers-retours en fait. Donc voilà, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de mettre aussi un peu le spectateur à l'épreuve, parce qu'il faut pas exagérer, c'est pas très compliqué, mais en tout cas en situation. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les trois premières photos ou les quatre premières photos, par exemple ?
Alors, ça commence fort. Hein. La première image est une photo de la chambre d'Isabella. Bon, voilà, je ne vous dirai pas l'année parce que je ne m'en rappelle pas. Ça fait 22 ans que je suis là, donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles en tête et je ne peux pas refaire la chronologie. Mais voilà, donc c'est une image forte, c'est une image, donc c'est une entrée en matière directe. Suite à cette image, enfin, elle vient s'articuler à un personnage au sol, donc qui dort ou qui est mort, on ne sait pas, on ne voit même pas sa tête, qui est en négatif et qui est bleu. Et sur fond blanc, donc il y a quelque chose comme ça de c'est pas peut-être un lien avec une certaine forme d'intemporalité aussi évidemment. Et puis lui-même vient son pied, son genou vient mordre sur l'image d'un circassien sur un trapèze, donc un volant en ombre chinoise sur le chapiteau, sur la toile du chapiteau qui elle-même est bleue, donc qui vient parler du personnage d'avant qui lui est lié à celui d'avant par un bout du vêtement qui fait la continuité d'une corne qui cette même corne est au bout d'un bras, enfin voilà. Donc l'idée c'est quand même d'être comme ça sur une forme de ligne mélodique en fait. Chaque image est pensée par rapport à la précédente et dans les deux sens en fait. Il faut aller de la droite à la gauche et de la gauche à la droite.
Mais dites-moi, ça doit représenter un sacré travail tout ça.
Mais oui, énorme en fait. L'idée c'est aussi qu'on ne s'en aperçoive pas, parce qu'il ne faut pas voir que c'est fait en force, mais ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais oui, beaucoup, beaucoup de travail de recherche déjà des images, de replonger dans les archives, ce qui est passionnant, mais après de tri, et puis de commencer à penser quelle image fonctionnera avec une autre, etc. Voilà, il y a aussi un personnage dans la frise que j'ai voulu intégrer, qui est un peu caché. Voilà, un personnage que j'aime bien, qui est aujourd'hui un personnage prépondérant du festival. Voilà, je ne vous dirai pas qui c'est, je vous laisse chercher.
Alors oui, j'ai cherché, et j'avoue que je ne l'ai pas reconnu. Il est vraiment très très bien masqué. Je vous laisse, vous, chers auditeurs, venir voir cette expo, et aussi de trouver de qui parle Marie. C'est un maître. C'est quelqu'un qu'on adore ici au Printemps des Comédiens. Nous n'en dirons pas plus, Marie.
Hein ? Non, je ne dirai pas. Je ne dévoilerai pas.
Alors, il y a une projection aussi d'environ 200 images à voir, toujours sous la pinède, confortablement installée dans les transats. Là aussi, il n'y a pas de chronologie. Vous nous proposez une promenade.
Tout à fait. Pas de chronologie, mais plutôt des séries. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle des yeux fermés. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être parfois les photos ratées. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, dans toutes ces séries d'images, j'ai conservé une grande partie des photos où les personnages ont les yeux fermés. Donc, ça peut être dans un discours, autant ceux de Jean-Claude Carrière que de Jean Varela, de discussions, d'artistes aussi, voilà, au plateau, qui, voilà, bah, on shoot et puis... Et puis les yeux sont fermés, on les rate, ben non, elle n'est pas si ratée que ça. Finalement, je les ai gardés, je les ai mis bout à bout, et ça fait une très jolie série. Enfin, celle-ci, je l'aime beaucoup. Après, il y a des séries d'amoureux, il y a des séries de cris, il y a des séries... voilà, donc, et absolument pas de manière chronologique, effectivement.
Mais Marie, vous gardez tout ?
Je garde tout, et ça fait beaucoup de disques durs.
J'imagine. Bon, et bien voilà, donc cette exposition et ces projections sont à voir pendant tout le festival. Et c'est en entrée libre. Donc venez vous régaler, admirer ces belles, belles photos. Marie Clausade, un grand, grand merci.
Merci.
Je vais donner votre site internet, Marie Clausade en un seul mot en minuscule. .com.
Tout à fait.
À bientôt et à l'année prochaine pour de nouvelles belles photos.
Tout à fait.
Et oui, vous êtes sur le réseau FM+, dans votre émission Scénorama spécial Printemps des comédiens. Eh bien, écoutez, j'ai vu avant-hier un super spectacle. Malheureusement, si vous ne l'avez pas vu, vous l'aurez raté parce qu'il ne se joue plus. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre un extrait. Donc c'est le tout début. Il s'agit de Timon Titus par le collectif OS, O-S apostrophe O, d'après donc Shakespeare. C'était donc avant-hier au Théâtre d'Eau. 2h30 de spectacle super. Un collectif vraiment à suivre de près. On écoute donc un premier extrait.
Le mot dette en français vient du verbe latin debere qui veut dire devoir. La dette, on la doit. Pour dire dette en allemand, on dit schuld qui veut aussi dire culpabilité. Quand on est endetté, on se sent coupable. Pour dire culpabilité en anglais, on dit guilt. Voisin étymologique de geld en allemand qui veut dire argent. Quand l'argent est impliqué, la culpabilité n'est pas loin. Et pour dire dette, en danois, on dit gæld, où on retrouve la culpabilité et l'argent. Bonsoir. Alors, nous nous sommes posé la question ce soir, qu'est-ce que nous vous devons ? Parce que vous êtes venus, vous avez payé vos places. Enfin, non, certains ont eu des invitations. Mais en tout cas, vous avez tous pris du temps pour venir ici. Et comme on dit, vous savez, le temps c'est de l'argent. On peut donc considérer que vous avez tous pris du temps et donc de l'argent pour venir voir le spectacle. Merci. Vous êtes donc en droit d'attendre qu'on joue ce spectacle. Oui. Quant à nous, on va tout faire ce soir pour régler notre dette envers vous et que vous ne repartiez pas en nous laissant, vous savez, un sentiment désagréable d'endettement et de culpabilité. Voilà. Alors, combien de temps de spectacle est-ce qu'on vous doit ?
2h30.
2h30, ouais. Alors, la durée moyenne, c'est 1h30 à peu près. Nous, on avait tellement peur de ne pas régler notre dette envers vous qu'on est parti sur 2h30 de spectacle. Voilà. C'est plus que la moyenne. Peut-être que certains sortiront en disant... c'était pas mal, mais un peu long. La bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas rester. Vous pouvez partir pendant le spectacle, discrètement, bien sûr. Mais, alors, si vous partez, vous nous laissez avec ce sentiment d'endettement et de culpabilité. C'est pour ça que moi, je préfère vous dire à la limite que vous devriez rester. Voilà, vous entendez la différence, hein, entre vous devez et vous devriez. Vous devez, c'est une stricte obligation. Vous devez manger pour vivre, vous devez ouvrir la bouche pour manger, vous n'avez pas le choix. Vous devriez laisse place à un peu plus d'imagination. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Vous devriez travailler, par exemple. Attention, vous ne devez pas travailler pour vivre. Vous pouvez tout aussi bien voler, compter sur des amis, toucher des allocations. Mais... vous le faites quand même, nous le faisons quand même, enfin pour la plupart, vous avez un petit peu plus le choix. Voilà, vous devriez, vous ne devez pas le faire, mais il y a de grandes chances que vous le fassiez quand même, sans quoi vous vous sentiriez coupable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous devriez rester.
David Léon, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis ravie de vous accueillir, puisque voilà, c'est une première dans Scénorama. Alors, David, dans le cadre des lectures proposées par Dag Jeanneret, nous pourrons découvrir cet après-midi même à 18h30 votre texte « La nuit, la chair » lu par Stéphanie Marc. David, depuis une dizaine d'années, vous écrivez une œuvre puissante et radicale. C'est pas moi qui le dis, ce sont les critiques, et vous avez des critiques quand même très 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 belles. On se souvient, alors moi je me souviens aussi notamment de votre première pièce publiée en 2011 aux éditions Espace 34, Un Batman dans la tête, mise en scène par Hélène Soulier, et vue au Théâtre des 13 Vents, c'était en février 2014. Il s'agissait d'un parcours d'un ado schizophrène, c'est bien ça David ?
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez suivi la formation de comédien au Conservatoire de Montpellier et de Paris. Très rapidement, apparemment, hein, si je me trompe, vous me dites, vous avez choisi l'écriture dramatique. À quel moment, David, sait-on que l'on est fait pour l'écriture plutôt que pour la scène, par exemple ?
De texte en texte, je crois. Au fur et à mesure de l'écriture, disons. J'ai commencé à écrire quand j'étais au conservatoire, oui.
Oui. Et donc l'écriture est venue tout naturellement, parce que vous avez quand même joué comme comédien.
J'ai joué comme comédien. L'écriture, elle est venue d'abord, oui, elle vient d'un désir de parole.
Que vous n'aviez pas en tant que comédien. Puisqu'en tant que comédien, en fait, on interprète la parole d'un auteur.
Oui.
Donc là, c'était une façon de vous faire entendre, vous, l'écriture.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre processus d'écriture ? Quelles sont vos sources d'inspiration, vos influences littéraires ? Comment naît l'œuvre d'écriture ? Alors, l'acte d'écriture ?
Les influences littéraires, elles sont nombreuses, elles sont nouvelles à chaque texte, on pourrait dire. Par exemple, dans La nuit, la chair, il y avait la lecture des textes d'Annie Ernaux, de Camille Laurence, de Christine Angot. Là, je viens de finir une pièce sur Michael Jackson. J'étais en train de lire William Faulkner, Cormac McCarthy. À chaque fois, dans un texte, il y a d'autres textes lus qui sont en filigrane, disons, dans ma tête derrière, quoi.
D'accord. Et alors, au niveau de la forme, est-ce que vous pouvez nous préciser votre écriture ?
Pour chaque texte, il y a comme une question pour moi littéraire à chaque fois. Sur la forme même. La nuit, la chair, par exemple, c'était travailler sur la parenthèse. Qu'est-ce que c'est une parenthèse dans un texte ? Donc, il y a tout un travail, même après, graphique, éditorial, avec Sabine Chevalier, dont je salue d'ailleurs le travail éditorial qui est très courageux. Donc, la nuit, la chair, par exemple, c'était la question de la parenthèse. Sauver la peau, c'était la question du point. Un jour, nous serons humains, du point virgule. Donc tout ça structure le texte, la parole.
Mais du coup, est-ce que ça donne pas des barrières à votre imaginaire ? Enfin, quand c'est des espèces de contraintes en fin de compte que vous donnez, non ?
Oui, ça donne pas une barrière, ça donne un cadre.
Oui.
Au contraire, ça ouvre le chemin en fait de l'écriture. Ça la déclenche.
D'accord.
Alors après, c'est plus ou moins long de trouver ou de repérer quel est le cadre, quelle est la forme. Mm-hmm. Il y a des textes qui demandent plus ou moins de temps, quoi. Un jour, nous serons humains, par exemple, j'ai cherché pendant 2 ans. La nuit, la chair, ça a été assez long aussi.
Et alors, vous l'avez écrit quand, ce texte, La nuit, la chair, ça vous a pris combien de temps ?
Ça m'a pris 1 an et demi, disons. Je l'ai finalisé en août dernier.
D'accord. Vous écrivez à quel rythme ? Vous avez des contraintes d'écriture ?
Non, pas vraiment. Enfin, non. Quand j'ai un sujet en tête, ça dépend des textes. Le texte que j'ai écrit sur Michael Jackson, je l'ai écrit en 1 semaine.
Oui, d'accord.
Je ne pouvais plus m'arrêter. Sauver la peau, je ne pouvais plus m'arrêter.
D'accord. Alors, j'ai lu que Antonin Artaud et Marguerite Duras, par exemple, étaient des figures importantes pour vous.
Elles ont été des figures importantes.
Ça y est, ouais. Elles ne le sont plus.
Duras, moins, beaucoup moins. Il y a Faulkner maintenant.
D'accord.
J'ai beaucoup lu Duras quand j'étais au conservatoire, oui. Et puis Duras, elle est dans l'imaginaire collectif, c'est la figure. Mais elle est toujours en référence, mais je m'y intéresse moins.
D'accord.
Et je l'ai beaucoup lu.
Et Artaud, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui ?
Artaud, c'est la voix. C'est la voix d'Artaud, c'est le... Puis bon, Il s'avère que moi, parallèlement à mon travail d'écriture, je suis éducateur, je travaille avec des adultes psychotiques, donc tout ce qui a trait à la folie, au déraillement, tout ça, ça la fêlure, les failles humaines, tout ça me parle beaucoup.
Et oui. Alors justement, j'allais en venir. Vous êtes toujours éducateur auprès d'adultes psychotiques ?
Toujours, oui.
D'accord. Alors cette activité nourrit votre écriture, en fait ?
Plus ou moins, ça dépend. Et quelquefois, pas du tout. Oui.
Mais vous avez d'ailleurs écrit un texte à ce sujet, Sauver la peau. C'est quand même le contact avec ces adultes, ce milieu qui vous a inspiré.
Sauver la peau, c'était le contact avec les enfants.
D'accord.
Parce que j'ai travaillé comme éducateur dans une institution avec des enfants très fragilisés.
Oui.
Donc là, c'était lié à cette expérience, oui.
D'accord. Et alors, quand vous écrivez, est-ce que vous imaginez déjà une mise en scène ou le choix de tel ou tel comédien ?
Non. En fait, moi, quand j'écris, je ne pense qu'au livre. Je pense qu'au texte.
Qu'à la forme, en fait. Enfin,
qu'à la forme, qu'à vérifier que ça tient le coup au niveau littéraire. Oui. Après, j'ai des images de scènes, d'espace, mais je ne pense pas à des comédiens, non.
D'accord. Alors, le désastre de l'individu est un sujet récurrent chez vous.
Oui.
Est-ce que l'écriture dramaturgique est une forme de thérapie ?
Non, du tout.
Non ?
Non. Ça, la thérapie a son espace propre.
D'accord.
C'est pas du tout une thérapie, c'est un travail. Mon projet est littéraire, d'abord.
D'accord. De quoi parle La nuit, la chair ?
La nuit, la chair, ça parle d'une femme, mais ça pourrait être un homme, une jeune femme ou un jeune homme, parce que le défi du texte, c'était d'arriver à écrire une parole qui soit dans les deux sexes, dans les deux genres. Donc il y a aussi là-dessus un travail sur la parenthèse, avec le « e » féminin entre parenthèses, voilà. Donc c'est une jeune femme ou un jeune homme qui rencontre un homme qui est d'une classe sociale supérieure à la sienne.
Et donc, que va-t-il se passer ?
Mon projet, je voulais écrire sur l'érotisme, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que ce serait une parole érotique au théâtre ? Avec l'idée de mettre le spectateur dans un espèce d'état comme ça d'érotisme, en me disant, est-ce qu'on peut faire entendre une parole de cet ordre-là au théâtre ?
D'accord.
Alors, donc, il va se passer qu'on va passer dans la rencontre. Le trajet du texte, on pourrait dire, c'est qu'on est d'abord dans un espace social, le corps social de la représentation, du simulacre un peu social, et le texte va en avançant jusqu'à ouvrir la scène, jusqu'à une scène sexuelle.
Alors, vous avez choisi la comédienne Stéphanie Marc pour interpréter ce texte. J'imagine que ce n'est pas un hasard.
C'est Stéphanie Marc qui a choisi le texte, je dirais.
D'accord.
Plutôt. En fait, elle a lu des extraits qui étaient en cours d'écriture et je crois que ça l'a beaucoup touchée. Donc, je dirais plutôt qu'elle a choisi le texte.
D'accord. Eh ben, écoutez, moi, je la vois très bien sur ce texte. Alors déjà, de toute façon, nous la découvrirons cet après-midi, enfin tout à l'heure sous la Pinède. Un chantier de création sera présenté le 2 février au Théâtre Jacques-Cœur à Latte. C'est bien ça ?
Oui. Dirigé par Alexis Lameda-Waxman, metteur en scène.
Voilà, j'allais vous demander qui était le metteur en scène.
Qui travaille aussi avec Stéphanie, qui a travaillé avec Stéphanie pour la lecture de tout à l'heure.
D'accord. Des dates prévues ? D'autres dates prévues ?
Ben, c'est en cours.
D'accord. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous propose d'écouter un extrait. Il est très court, mais c'est pour vous mettre en bouche et vous donner envie d'aller découvrir cette lecture. Donc cet après-midi à 18h30, sous le chapiteau, au fond de la Pinède, et l'entrée est libre.
Je suis allongée sur votre lit, je ne sais pas comment me tenir. J'essaye de détendre mes jambes, j'étire mes orteils pour y former une palme qui se déplie. Je ne sais pas comment me présenter. Je vous entends vous brosser les dents, l'eau qui glougloute avec vivacité, la blancheur de vos dents, impeccable. Quand je vous ai vu la première fois dans ces théâtres, j'ai su immédiatement qui vous étiez, à votre habit, votre costume, votre prestance, le ventre bombé, la veste bleu roi, un col mao, vous me l'avez confirmé, votre fonction. Lorsqu'à votre départ, je suis venue me présenter. Lorsque tu sors, accompagnée de ta ministre, tu t'autorises parfois des tennis sportswear noirs très habillés, devenus très chic, très à la mode, un signe social qui pourrait bien paraître comme du laisser-aller. Mais lorsque vous m'en parlez, tu pèses tes mots sous un léger sourire. quand je vous fais remarquer comme vous étiez bien habillé, quand par espièglerie j'insiste sur votre originalité, la pertinence du choix de ces chaussures, je vous souris, vous répondez « Ah oui, j'ai osé ».
Et oui, donc merci David Léon. Voilà un extrait de cette lecture à découvrir, « La nuit, la chair » de David Léon. Vous êtes donc sur le réseau FM+, dans votre émission Scénorama spéciale Printemps des comédiens. Et Lou est avec moi. Donc Lou est l'assistante d'Isabelle Sénégas et de Marie Moine, les super, trois super, un trio magnifique qui nous reçoit, nous la presse, donc chargée de la presse, de la communication, n'est-ce pas Lou ?
Tout à fait.
Alors Lou, qu'est-ce qu'on peut voir ce week-end, sachant que ce vendredi, c'est peut-être un peu à l'arrache pour les auditeurs. On va peut-être passer directement à demain samedi. Je rappelle que les auditeurs peuvent aussi écouter Scénorama donc le samedi à 12h30 ainsi qu'à 18h. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez pour ce samedi, Lou ?
Alors, samedi, il y a deux séances pour voir The Encounter, le spectacle avec Simon McBurney. Donc, une à 15h et une à 20h. C'est une première en France, c'est un gros événement. Donc, il faut venir absolument voir ce spectacle.
Ah oui, je crois que vraiment, oui, oui. Parce que c'est quand même une forme très, très particulière. Chaque spectateur aura un casque sur les oreilles. Vous pouvez donner quelques explications, Lou ?
Voilà, alors c'est un spectacle qui sera en anglais, surtitré en français. Et c'est une expérience sensorielle en son 3D. Donc, il y aura en effet des casques à chaque siège et le spectateur aura l'impression d'avoir un son ambiant tout autour de lui. C'est très très beau, c'est technologique, c'est poétique, donc il faut le voir.
Oui. Un spectacle que je pense nos auditeurs connaissent déjà, c'est la compagnie La Faux Populaire, la mort aux dents, c'est ça, avec le Cirque Poussière.
Voilà, le Cirque Poussière qui commence samedi et qui joue jusqu'à jeudi, c'est à 21h et ça sera un temps cirque très familial, voilà aussi, donc plusieurs dates à repérer, dont ce week-end, ça commence.
Oui, oui, je pense que ça va être très très sympa, il y a du Deschiens, du Jérôme Deschamps, enfin voilà,
c'est très familial.
On va passer un très très bon moment, je pense.
C'est très ludique.
Voilà. Ensuite, donc, l'After Shakespeare, nous l'avons présenté. C'est demain. Une petite forme, Mira. Mais bon, voilà, ça se termine demain, 18h ou 20h30. C'est une forme de 35 minutes, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça, oui.
En vue d'une création.
Tout à fait.
Il paraît que c'est très très beau.
Il paraît aussi, bien sûr.
Et quand même aussi, un des événements du Printemps des comédiens, je pense, au Joël Pomera.
Oui, ça ira, fin de Louis, qui a reçu 3 Molières. Donc, c'est vraiment un gros événement. Ça commence dimanche et ça se termine lundi. Il n'y a que 2 dates. Donc, il faut aussi absolument le voir. Ça dure assez longtemps. Ça dure 4h20, mais c'est une vraie expérience théâtrale. Donc, on vous le recommande. C'est grand temps fort de ce printemps.
Ah oui, oui, oui. Ça va être un super, super marathon. Bon, précisons quand même qu'il y a 2 pauses de 10 minutes.
Oui, donc, oui, quand même. Avec du café, voilà. Il y aura de quoi tenir jusqu'à la fin.
Mais voilà, ça c'est génial. Alors, puisqu'il nous reste un peu de temps, on va rappeler quand même la fête de la musique. C'est une carte blanche aux Folies Lyriques. Donc depuis plusieurs années, depuis que Jean Varela est directeur du festival, nous avons une super fête de la musique dans le domaine d'eau, avec à peu près tous les styles de musique, n'est-ce pas Lou ?
Oui, ça va du classique au jazz, c'est très, très représentatif, il y a plusieurs endroits pour apprécier la musique. Voilà, ça commence à 18h et non à 19h30 comme indiqué dans le programme.
Ah bon ?
Et ça finira à minuit et plusieurs espaces du domaine d'eau seront réquisitionnés pour apprécier des temps de musique variés, ça sera très sympathique aussi.
Oui, oui, oui. Alors c'est en entrée libre, mais alors venez tôt parce que je peux vous dire que chaque année, c'est blindé. Les parkings sont blindés. Alors là, peut-être aussi, ce serait intéressant de venir en tram.
Oui, venez en tram, ça sera peut-être plus pratique pour tout le monde. Et en effet, il y aura beaucoup de monde, alors n'hésitez pas à venir en avance.
Lou, quelle ligne prend-on et on s'arrête où pour venir au Printemps des comédiens ?
Alors, on prend la ligne 1, c'est le tram bleu. On s'arrête à Malbosque, car toutes les entrées du printemps se font à l'entrée nord, donc à Malbosque. Et après, on a 2 minutes de marche, même pas, et on est directement au Printemps des comédiens.
D'accord. Alors, puisque nous en sommes aux informations pratiques, est-ce que vous voulez bien donner le site internet et le téléphone pour les réservations ?
Alors, le site internet www.printempsdescomédiens.com et le téléphone pour réserver vos places 04 67 63 66 66. Nous sommes aussi sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre.
Alors, et j'aimerais aussi qu'on remette l'accent, on en a parlé la semaine dernière, mais franchement, c'est trop bien, c'est Bartabas à Sortie Ouest.
Tout à fait,
vous
oui.
avez pu le voir, Lou, vous travaillez beaucoup.
Pas
est-ce
encore,
que vous avez pu...
non, voilà. C'est un peu compliqué, mais il y a énormément de dates, donc il ne faut pas hésiter à aller le voir. C'est à Béziers, donc, et c'est quand même un événement du Printemps des Comédiens, donc à ne pas manquer, organisé par le théâtre Sortie Ouest à Béziers, et ça, c'est jusqu'au 11 juillet.
Voilà, et c'est génial. Et alors là aussi, arriver une heure avant, voire une heure et demie avant, parce que vous avez plein de petites guinguettes, des food trucks, etc. Des tables et des transats sont dispersés dans tout le domaine. Donc venez, baladez-vous, mangez là. Et c'est vrai, c'est un bonheur, déjà rien que par le lieu. Et puis Bartabas, ce spectacle, c'est magnifique.
Voilà, oui, tout le chapiteau a été mis en place et ils ont vraiment reconstruit un lieu pour que ce soit agréable de venir passer la soirée à Béziers, de profiter de Béziers et voilà, de délocaliser un petit peu le festival à Béziers, ce qui est une super idée.
Merci Lou, merci à Stéphane et à Rami qui est à la technique. Merci à toute l'équipe du Printemps de nous accueillir comme chaque année. Donc je vous rappelle que Scénorama, c'est des émissions en direct du Printemps des Comédiens. Et donc on se retrouve vendredi prochain.
Les rediffusions Scénorama spécial Printemps des Comédiens de 2014 à 2019, c'est sur Radio FM+, tous les vendredis à 11h et à 20h, le samedi à 12h, et écoutable en podcast sur notre site radiofmplus.org. Merci à Stéphane à la technique, à Yann pour la mise en ligne, ainsi qu'à Guylaine, notre directrice d'antenne, qui ont œuvré tous les trois à ces diffusions depuis chez eux. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, et à la semaine prochaine.